Bonjour tout le monde, c'est Kevin Breton au micro, toujours en remplacement de Clotilde Seil. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission du 22 août, une émission bien remplie. Aujourd'hui, on va parler d'isolement. On va notamment miser sur les organismes, sur les réseaux, sur les personnes, les bénévoles qui peuvent venir en aide aux personnes qui peuvent se sentir reclus, esselés, confinés. Puis qu'avec grâce à ces personnes-là, vont pouvoir trouver des outils pour s'en sortir. On a plusieurs invités aujourd'hui qui vont pouvoir nous partager leur expérience en ce sens-là. Très heureux. Également, on va également avoir notre chroniqueuse voyage Aube Savard qui va venir nous donner quelques suggestions touristiques. Mais avant tout, dans un instant, les manchettes. Dans le Soleil, un article de Mylène Moisan que je trouvais bien important de vous lire, qui concerne en fait le recours collectif sur les frais accessoires visant 113 cliniques, dont 8 à Québec, vient d'être autorisé par la Cour supérieure. C'est la journaliste Mylène Moisan qui nous l'apprend. Le ministère de la Santé a donc 30 jours pour faire une demande d'appel. Au cabinet qui mène le dossier depuis 2014, on se réjouit de la décision du juge Michel Yergaud. On est très content, a réagi Maître Bruno Grenier hier en entrevue téléphonique. On s'attendait à avoir une décision à l'automne. On était très optimiste. Selon les premières estimations, entre 100 et 200 millions pourraient avoir été facturés illégalement entre le 15 mai 2011 et le 26 janvier 2016 par les médecins, essentiellement en produits ophtalmologiques, par exemple des gouttes ou des agents anesthésiants utilisés dans les cliniques de dermatologie. À la suite d'une plainte déposée au fédéral par l'avocat Jean-Pierre Ménard, qu'on a reçu souvent ici à l'émission, ces frais ont été abolis par la RAMQ le 26 janvier dernier. Des centaines de patients sont touchés par le recours collectif qui a été fait au nom de toutes les personnes qui ont déboursé une somme d'argent suite à une facturation au-delà du prix coûtant pour des frais de médicaments ou d'agents anesthésiques accessoires à un service donné par un médecin ou un optométriste dans une clinique. Si le cabinet obtient gain de cause, les médecins, les optométristes, la RAMQ ainsi que le ministère de la Santé du Québec pourraient être condamnés à rembourser les montants perçus en trop, les intérêts ainsi qu'une indemnité additionnelle. Une entrevue que j'ai trouvée bien intéressante sur le site de Radio-Canada qui est sortie la semaine dernière, c'est un texte de la journaliste Sophie Vallée. En utilisant des robots pour mieux comprendre les pratiques langagières des enfants autistes, Stéphanie Walsh-Matthews met de l'avant l'importance des études et du travail interdisciplinaire. Elle est professeure agrégée au département de langue, littérature et culture à l'Université Ryerson. Elle fait partie d'une équipe de recherche interdisciplinaire qui a constaté que les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme interagissaient facilement avec des robots. Cette méthode pourrait ultimement promouvoir de meilleures interactions pour certains enfants autistes. En travaillant avec des experts en robotique et des professionnels du milieu médical, Stéphanie Walsh-Matthews a mis sur pied une base de données linguistiques qui permettrait de mieux comprendre les répétitions langagières de ces enfants autistes. Pourquoi utiliser des robots avec des enfants qui ont l'autisme? Bien, l'hypothèse est que le robot présente une interface minimaliste qui emmène l'enfant à interagir avec lui. On a ainsi pu observer que les enfants avaient une aisance à interagir avec ceux-ci puisqu'ils sont moins bruyants que les humains. Par exemple, quand je parle, je gesticule, je bouge beaucoup, il y a plusieurs choses imprévisibles qui se produisent dans mon discours. Comme la plupart des gens, nous communiquons avec plusieurs codes. Alors que le petit robot, lui, dit tout de la même façon, il a la même tonalité. Le robot présente moins de stimulation qu'un être humain lors d'une interaction. Quand j'ai commencé à travailler avec les robots NAO et les enfants qui ont l'autisme, j'ai pu observer une augmentation de la production langagière. Après un certain nombre d'interactions avec le robot, la plupart des enfants produisaient davantage de mots qu'au départ. En général, ce qui a été acquis durant l'interaction robotique a également été mis en pratique avec les interactions humaines par la suite, donc quand les robots aident les humains à mieux parler entre eux. Une nouvelle que je trouve intéressante à vous mentionner, ou surtout importante pour les usagers du transport en commun. Sachez que c'est le retour à l'école, c'est la rentrée qui commence dans quelques semaines. Et qui dit ça, ben dit également changement d'horaire pour les différents circuits d'autobus. Et la Société de transport de Laval a annoncé les modifications sur ses déplacements. Même si l'été reste avec nous pour quelques semaines encore, l'horaire de la STL entrera en vigueur le samedi 26 août, donc la semaine prochaine, et des nouveautés sont à prévoir. Les usagers qui empruntent la 45 verront la ligne prolongée dans les quartiers Vimont et Auteuil, un ajout qui permettra de rejoindre la gare du boulevard Belle-Rose, le parc industriel Centre et le métro Montmorency plus rapidement. Concrètement, la STL met à la disposition de la clientèle 10 voyages de plus aux heures de pointe en semaine et plus de 40 voyages les week-ends, une fréquence aux 20 minutes en direction sud en matinée et vers le nord en soirée, une correspondance avec les trains de la ligne Saint-Jérôme dans les deux directions et un service prolongé jusqu'à 23 heures la fin de semaine font aussi partie de la bonification, la partie que je trouve la plus intéressante. Les gens à mobilité réduite pourront maintenant se déplacer à bord de la ligne 24 qui dessert les boulevards Cartier et Samson en direction de Sainte-Dorothée. Ça devient donc la 8e ligne accessible aux usagers du transport en commun, en fauteuil roulant. À Laval, c'est encore bien peu, mais tant qu'il y aura des améliorations à chaque année, on va se rendre éventuellement à la totalité de l'accessibilité du réseau. C'est ce qui conclut les manchettes. Et dans un instant, bien nous, on va s'entretenir avec notre premier invité de la journée. François Palardy, qui est avec nous en studio aujourd'hui, c'est pas votre première visite à Canalem. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler, bien évidemment, des impatients, dont vous êtes le directeur.
Oui, bonjour Kevin. Alors, tout de suite en partant, c'est Frédéric.
Comment je vous ai appelé? Je vous
François,
ai baptisé.
François, mais c'est pas grave.
Je suis désolé, pourtant c'est bien Frédéric qui est écrit sur ma petite feuille, mais j'ai lu trop rapidement.
Aucun problème.
Il n'y a pas d'anicroche pour commencer.
Pas du tout.
Au moins, j'ai bien nommé votre titre et
oui.
Celui de l'organisme.
Je pense que oui.
C'est le plus important.
Oui.
Pour les gens peut-être qui n'ont jamais écouté Canalem ou qui n'ont pas écouté vos visites précédentes, si on pouvait résumer en fait la mission de cet organisme.
Alors, les impatients, bon, on existe depuis 25 ans, mais la mission des impatients, c'est d'abord et avant tout... de fournir des ateliers de création artistique à des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
Mmh. Donc, on imagine que ces gens-là sont souvent susceptibles de vivre un certain isolement. La santé mentale, c'est un spectre qui est très, très large. Les troubles sont variés.
Oui.
Mais souvent, ça peut tendre vers le confinement.
Ah, c'est la première des choses, je pense, qu'on réussit à diminuer, c'est justement c'est de briser l'isolement qui est un des problèmes majeurs de la santé mentale.
Parce que les gens sont réticents à aller chercher de l'aide ou aller vers les différents organismes qui sont à leur disposition?
Ah, je vous dirais même plus que ça. Je vous dirais, si je le ramène presque à un côté personnel, là, dans les environnements ou dans ce qu'on connaît, dans notre quotidien, la première chose qui se passe quand on a des problèmes de santé mentale, c'est qu'on perd notre réseau.
Mm-hmm.
Parce qu'on devient, bon, on devient « lourd », entre guillemets. On devient un fardeau. Alors, les gens s'éloignent de nous. Quand on devient un fardeau, la société est difficile. Même les amis s'éloignent. Alors, on devient un lieu où, justement, ces gens-là qui sont seuls, qui sont devenus seuls, peuvent, justement, briser l'isolement.
Ça devient un lieu de partage également.
Mm-hmm.
Mais vous, votre principal mode d'opération, c'est l'art. C'est une
oui.
forme d'art-thérapie, en fait, là, que vous employez là, chez les impatients.
C'est une forme d'art-thérapie. Par contre, ce n'est pas de l'art-thérapie. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de thérapie en tant que telle humaine, ni sur le dessin ou sur la création. On laisse faire l'art au lieu de travailler avec la personne. Donc, c'est l'art qui devient thérapeutique.
C'est le médium en tant que tel.
Exactement. Par contre, c'est sûr que par la force des choses, on aide les gens, donc on écoute les gens. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas... totalement nier qu'on fait de la thérapie.
Est-ce que c'est juste un prétexte ou s'il y a comme un objectif de vraiment se perfectionner dans un milieu artistique en allant dans ces ateliers?
Ah non, c'est ni un prétexte, ni un objectif de se perfectionner. C'est prouvé depuis plusieurs années. D'ailleurs, on le fait depuis 25 ans, nous. Mais c'est prouvé que la création ou l'art aide énormément à la santé mentale. C'est très, très bon pour la santé mentale. On est appuyé par les principaux hôpitaux psychiatriques depuis très longtemps. Il y a des études qui démontrent, on a des études, nous, qui démontrent que 87 % des gens qui sont venus dans nos ateliers ont vu leur santé s'améliorer et 66 % des gens qui sont venus dans nos ateliers ont une diminution de leur hospitalisation.
Oui, allez-y,
continuez. Non, juste pour terminer sur ce chiffre-là, ce qui est très important, ce qui est majeur dans ce chiffre de 66 %, c'est que en santé mentale, il y a souvent des rechutes. Donc, on appelle le principe de la porte tournante.
Mm-hmm.
Et quand on parle de 66 % de gens qui évitent, qui au moins une fois ne seraient pas retournés à l'hôpital, c'est énorme.
Parce que c'est souvent cyclique, en fait.
Exactement.
C'est ça. Et puis ça permet de briser ce cercle vicieux.
Voilà.
Vous parliez de votre succès. Effectivement, là, on parle des ateliers à Montréal, mais vous avez également ouvert des centres là, à Drummondville, ailleurs en région. Ça parle beaucoup pour le succès de votre organisme, ça.
Oui, je pense que oui. Je le dis souvent là, en entrevue, j'ai pas de mérite. Moi, ça fait 4 ans seulement que je suis à la tête des impatients. J'ai hérité d'un organisme en santé et un organisme avec une très grande crédibilité. Alors maintenant, les hôpitaux font appel à nous pour ouvrir des ateliers. On est rendu à 11 sites différents, donc sur la Rive-Sud également, puis on va en ouvrir 3 nouveaux déjà.
Au Québec, toujours?
Toujours au Québec.
Mais vous avez de grandes ambitions pour sortir même en dehors de la limite de la province.
Ah, définitivement.
Vous parlez, bon, il y a des ateliers de dessin, des ateliers de musique. Peut-être que vous pouvez me parler comment ça se passe pour une personne qui se fait référer, par exemple, au service des impatients et qui arrive à un atelier puis qui ne sait pas si lui n'a jamais dessiné, n'a jamais fait de musique. Est-ce qu'il y a un accompagnement? On l'aide à cheminer vers un instrument ou vers son propre médium préféré?
Oui, bien définitivement. En fait, il y a des inscriptions, donc on choisit à l'avance là, les champs d'intérêt. On n'est pas obligé d'avoir du talent. Au contraire, il y a 2 critères d'acceptation, c'est de fonctionner en groupe et d'être référé par quelqu'un de la santé, ou un psychiatre ou un travailleur social, etc. Mais quand on arrive en atelier, le trademark, si je peux dire, des impatients, l'image de marque en français, c'est qu'on traite les gens comme des personnes, on oublie la maladie. Donc les gens arrivent en atelier, il n'y a aucune question sur leur maladie, il n'y a aucun rapport sur leur maladie, donc on les traite comme des personnes. Elles arrivent, bon, on parlait tantôt, on brise l'isolement, mais on valorise l'individu toujours. Et ensuite, c'est des artistes qui donnent les ateliers, ce ne sont pas... Il y a des art-thérapeutes, ouais. mais les art-thérapeutes agissent comme des artistes.
Mm-hmm.
Donc, c'est toujours via la création. Et ils sont libres, la plupart des ateliers sont libres, donc sont libres de créer, mais les animateurs sont là pour... les aider. Là,
À la différence, on pourrait croire qu'entre un art-thérapeute et un art-thérapeute qui met sur l'art ou un art-thérapeute qui met sur la thérapie, c'est qu'il va beaucoup plus faire parler le patient ou l'impatient par son art que par verbalement ce qu'il ressent, par
exactement.
Exemple.
Ah, exactement.
Ça, c'est bien intéressant.
Et surtout, l'absence de questionnaire, l'absence de... On mise beaucoup sur la personne.
Parce que c'est moins imposant, j'imagine que c'est moins stressant.
C'est beaucoup moins stressant et on a une autre caractéristique qui nous distingue très bien, c'est qu'il n'y a pas de durée. La personne arrive, donc elle est traitée comme une personne, on ne parle pas de sa maladie. Faut comprendre que quand dans la vie on est schizophrène ou bipolaire, on est identifié comme un schizophrène, on est identifié comme un bipolaire.
Ça vient avec une étiquette.
Oui. Et partout où on va, par exemple chez le psychiatre ou dans les hôpitaux, partout où on a un traitement, on se fait poser des questions sur notre maladie. Chez nous, on n'en parle jamais. Et en plus, il n'y a pas de durée. On ne dit pas à l'impatient, ben, dans 6 semaines, il faut que ce soit amélioré, sinon, ou dans 6 mois, c'est fini. C'est sans durée fixe, et ça, c'est très, très rare en 2017.
Puis ça fait très bien référence au nom également de l'organisme que je trouve tellement bien choisi, là.
C'est extraordinaire, ce nom-là.
Magnifique branding.
Oui, et qui a été choisi il y a 25 ans.
Ah, ben oui, c'est vrai. Puis il a traversé l'épreuve du temps.
Oui.
Je lisais, parce que vous avez sur votre site Internet certains témoignages, notamment qu'on retrouve dans une capsule de la presse. Et puis on parlait que lorsque ces gens se rendent à ces ateliers, on voit la personne en premier et non les troubles de santé. Puis ça leur fait beaucoup de bien parce qu'on est habitué de les définir par rapport à leurs troubles de santé. Mais... la conclusion de certains des intervenants disait « ça m'a quand même permis d'accepter la personne que j'étais, puis de moins, après ça, avoir de réticence à me présenter tel que je suis.
Ah, »
Ça, c'est un autre effet collatéral de
oui,
votre
oui,
approche.
Oui. D'accepter. Déjà, quand on vient aux ateliers des impatients, il y a déjà une étape de franchie, c'est d'accepter qu'on a une problématique de santé mentale.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On est en 2017. C'est de plus en plus facile à accepter, entre guillemets.
Il y a encore un stigmate,
mais... Oui, mais il y a encore beaucoup de stigmates. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup, qu'on tente de briser, justement, par l'autre volet des impatients, qui est très diffusion de ce qu'ils font, donc dans la valorisation de leur travail, dans la diffusion, dans le... l'association avec des vedettes, l'association avec des personnalités qui ont, où on est très choyé.
Dont François Bellefeuille, là, qui a aidé votre cause, notamment.
François Bellefeuille, qui aide notre cause, qui va faire un spectacle bénéfice pour les impatients au mois de décembre, et qui donne, ça c'est très important, qui donne tous les profits de ses produits dérivés au profit des impatients.
Ouais, notamment là, ses belles petites tasses avec sa caractéristique moustache. Est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre, les impatients? Est-ce qu'on peut faire des dons, donner de notre temps, par exemple?
Tout est sur le site. Oui, on peut donner de l'argent, surtout. C'est toujours une question d'argent. Impatient.ca, impatient avec un S.ca. Tout est sur le site, mais vous êtes bienvenus, c'est sûr, principalement les entreprises.
Parfait, ben le message est lancé. Puis ben merci beaucoup Frédéric et non François Palardi d'être venu aujourd'hui nous présenter la mission des impatients.
Un gros merci Kevin de m'avoir invité.
Ça me fait plaisir. Et puis bien on parlait de l'importance de s'impliquer, l'importance de redonner à sa communauté. Notre prochain invité va pouvoir en témoigner également. On reste dans le même thème avec le regroupement québécois des parrainages civiques dans un instant et on va même écouter une chanson qui va mettre la table au sujet.
La mia voce se ne frega, ma mio cuore non se va. Tu mi dici che la vita, ogni passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Che la vita si schiarisce, che la vita se ne sta. La mia voce se ne frega, ma mio cuore se ne sta. Tu mi dici che la vita, ogni passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminare, camminare. Un passo in fronte. Per te camminar più forte, più svelto che l'anima. Hey! E la vita sembra dura, che la vita vuol fermar. La mia voce se ne frega, ma mio cuore può gridar. Tu mi dici che la vita, ma i passi che farai, devi mai guardare indietro, devi solo camminar, camminar. La vita mi fa ridere come mai. Delle volte non ci penso, mio sospiro mi fa guai. Tu mi dici che la vita, ogni passo che farò, devo mai guardare indietro, devo solo camminare, camminare. Un passo in fronte nell'altro per te.
Une chanson de Marco Cagliari. Nous sommes de retour à M l'été. C'est toujours Kevin Breton qui est au micro de l'émission aujourd'hui. En compagnie maintenant de Locke Corrie, coordonnateur du regroupement québécois des parrainages civiques. Bonjour, M. Corrie.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir. La chanson qu'on vient d'entendre, c'est pas un hasard si on l'a choisi. Si on l'a mis dans l'émission aujourd'hui, elle tombait bien avec votre présence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait pourquoi?
Alors en fait, c'est la chanson donc, de notre porte-parole, au Québec, Marco Cagliari, C'è la vita, et c'est une chanson, c'est un hymne en fait à l'entraide, au partage, et c'est un clip qu'on a réalisé avec 8 organismes de parrainage civique au Québec, donc avec nos membres, Et Marco Cagliari a fait la tournée, a fait le clip, a participé au clip, donc vous pouvez le visionner sur Facebook principalement et évidemment sur notre site internet.
Tout à fait, oui, absolument. On va même pouvoir mettre le lien sur notre page visezvoir.com si vous voulez voir le vidéoclip qui est très sympathique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouve qu'il y a un beau lien à faire avec notre invité précédent. On parlait d'entraide, on parlait de partage. La mission du regroupement québécois des parrainages civiques, ça tombe exactement dans ce sens-là, là.
Ah bah, au niveau du regroupement, moi, c'est de soutenir tous mes organismes de parrainage civique au Québec. Mais oui, le parrainage civique, c'est du partage, c'est de l'aide et c'est de l'entraide. Donc, jumeler une personne vivant avec une déficience intellectuelle, principalement problème de santé mentale, TSA, avec un bénévole, un citoyen. Donc, c'est donner de son temps. Moi, c'est pas de l'argent que je demande, je demande juste aux gens de donner de leur temps, de leur passion, de leurs envies, ce qu'ils ont envie de partager au quotidien avec quelqu'un qui vit avec une déficience intellectuelle.
Ça peut, tu sais, moi je peux me sentir comme une personne qui a du temps le mercredi après-midi, qui fait rien, puis qui aimerait bien ça, peut-être juste passer du bon temps, mais ça peut être gênant d'aller approcher quelqu'un qu'on connaît pas, surtout si on n'est pas initié, par exemple, à la déficience intellectuelle. Comment on fait pour combattre ces craintes-là, puis faire le pas, puis appeler
Oui, bah, c'est ça. Souvent, en fait, on nous appelle, les gens sont également craintifs. Donc, on ne fait pas un jumelage comme ça, là. C'est pas le Tinder. Hop, on se matche pas directement. Donc, on a des agents de jumelage au parrainage civique. Et pendant, ça dépend des organismes, mais ils vont faire en sorte de vous mettre bien à l'aise. Il va y avoir des rencontres préparatoires à tout ça. Souvent, les bénévoles sont là. Oui, mais si je vais aux courses seulement, ou si je regarde juste un film chez moi, etc., bah oui. C'est ce que moi j'appelle partager son quotidien, son temps, ses activités avec une personne qui également est seule, isolée socialement et veut sortir avec des personnes dites normales, valides et pas rester confinée toujours avec les mêmes personnes, voir autre chose, aller prendre un café,
Découvrir
regarder
un
un
autre
film,
quartier,
un autre
peut-être.
quartier tout simplement, partager sa culture, etc. Donc en fait, c'est vraiment un partage, nous, au niveau du parrainage civique.
Et là, si vous demandez aux gens de donner de leur temps, c'est parce qu'il y a un manque de bénévoles en ce moment-là. Ça répond pas à la demande. Vous aimeriez avoir plus de gens qui mettent l'épaule à la roue.
Bah, on a à peu près 1 000 jumelages actifs au Québec, répartis à travers tous les organismes de parrainage civique, et il y en a 700 en attente, sachant que nos listes d'attente, on les limite également. Donc ça pourrait être beaucoup plus nombreux. On a à peu près 3 000 bénévoles qui s'impliquent au quotidien, mais parfois les jumelages ne se font pas. Évidemment, c'est pas premier arrivé, premier servi, notamment pour nos membres filleuls. Ils peuvent attendre parfois 3 à 5 ans avant d'être jumelés. Malheureusement, on essaye de jumeler par affinité et des personnes soient complémentaires, similaires. Enfin, on essaye de voir les différents profils pour que ça matche.
Et donc cette campagne-là de visibilité, elle s'inscrit bon avec la chanson dont on vient d'entendre de Marco Cagliari et d'une journée que vous allez profiter là pour vous vraiment faire connaître le message le 25 septembre prochain, la journée P.
Oui, alors c'est un drôle de concept, souvent on dit paix, ça amuse beaucoup, beaucoup les gens, mais donc c'est le partage, le parrainage. Et cette année, on a un petit nouveau dans la famille du parrainage civique, grâce à Marco Cagliari, qui a été l'ancien ou le porte-parole des Pacini. Mais donc il y a quelques franchises Pacini, en fait, qui se joignent à nous pour promouvoir cette journée québécoise du parrainage civique, intitulée
La grande chaîne de
la journée paix.
restaurants, le Pacini,
C'est
c'est
ça,
ça?
donc en fait, il va y avoir donc évidemment des tables de recrutement. Ils vont, sur certains restaurants, diffuser les différents clips spots du parrainage civique pour promouvoir le jumelage. Donc ça va y avoir peut-être sur certaines franchises des jumelages socio-pro, c'est-à-dire que bah, les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle vont être intégrées sur un milieu de travail, le serveur, comment on sert, comment on présente, le service à la clientèle, tout ça. Donc oui, il y a une petite initiation comme ça, et donc ça se fait pour la première fois avec Pacini cette année. Donc il y a 9 Pacini qui sont concernés par nos organismes de parrainage civique qui vont participer à cette journée, et il y aura une promotion spéciale sur encore la thématique journée paix, journée pizza.
Donc
Donc, ah ouais, attends, nous,
d'y aller vraiment à
on
fond
a
avec la
réfléchi avec les
thématique
Américains. Hein.
donc les 9 restaurants, est-ce qu'ils sont tous à Montréal ou ils sont même
Non,
allés
non, non, non,
dans
c'est vraiment partout au
partout au
Québec.
Québec?
Partout au Québec.
Donc
Il y en a 2 à Montréal, le Pacini, bah, pas trop loin d'ici, Berry-UQAM, notamment à L'Angelier, sur la rive sud.
Donc le 25 septembre, on va
C'est ça.
manger de la pizza. pizza au Pacini.
Ouais, au Pacini, on sera là avec Marco.
Parlez-moi du degré d'engagement que ça nécessite d'être une marraine ou un parrain. Est-ce qu'on doit avoir une fréquence régulière? Est-ce qu'on se dit, ben moi, j'ai un horaire variable, des fois, je veux pas non plus créer d'attente pour quelqu'un, puis finalement, pas pouvoir l'emmener au cinéma, puis que ça lui brise le cœur? Comment on gère ça? Comment on gère ce stress?
Alors, c'est sûr que, et c'est pour ça que c'est difficile comme bénévolat que l'on demande, et moi, au niveau de la communication, j'évite de parler ça d'engagement. D'engagement à long terme en plus.
Il n'y a pas de contrat
demande.
Là.
Il y a un contrat moral, il y a un petit contrat au tout début, en tout cas dans les personnes qui s'engagent, c'est un an minimum là, pour s'engager. Mais c'est une fréquence, ça dépend des organismes, chacun a ses politiques, mais on demande plus ou moins 3 heures par mois. La fréquence c'est à choisir, mais une fois toutes les 2 semaines. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être tout est rien, quoi. Enfin, ça peut être un appel parfois quand on ne peut pas forcément se déplacer, mais c'est de maintenir ce contact avec cette personne. Et en fait, petit à petit, ça se fait naturellement parce que ça devient un ami. On voit les amis à la fréquence que l'on souhaite. Bon, si on n'aime pas le filleul, là, il y a un problème. Mais là, c'est à l'agent de jumelage de régler ça, ce problème-là, parce qu'évidemment, il y a des jumelages qui ne marchent pas.
C'est ça, ça doit arriver, les situations.
Oui,
mais
ça arrive.
Il y a plus de cas heureux que de cas malheureux.
Oui, 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 évidemment, évidemment. En tout cas, on ne me le dit pas aussi dans tous les cas malheureux, là, mais non. Moi, j'ai vraiment de belles histoires. On a nos plus vieux jumelages qui ont 35 ans.
35 ans,
ouais,
wow.
Ouais. J'ai également une autre bénévole, beaucoup plus jeune, où malheureusement, donc, la mère de la filleule a disparu. Et au fil du temps, la marraine est devenue, vu que c'était quelqu'un, un membre de la famille, est devenue tutrice légale. De la filleule. Normalement, on n'engage à rien, mais il y a vraiment une relation d'amitié qui se fait, et ça fait partie d'une grande famille, tout ça. Chacun, après, s'échange. Quand on sort, j'amène juste un ami avec moi que je présente à mon cercle d'amis, et vice-versa, et petit à petit...
Ça fait boule de neige.
Ouais.
On parlait tout à l'heure que, tu sais, juste les impacts bénéfiques à court terme, ça pouvait seulement être d'apprendre une nouvelle culture, de découvrir un nouveau quartier. Mais à long terme, c'est quoi qu'on vise avec ces gens-là? C'est un épanouissement personnel sur quel plan?
C'est vraiment de la confiance en soi, notamment. Enfin, ce qui ressort le plus souvent, c'est il y avait un filleul qui... Il avait du mal à commander tout simplement au restaurant, regarder la serveuse dans les yeux ou quoi que ce soit. Et petit à petit, en fait, grâce à son parrain, il a pris confiance et maintenant il peut commander seul. Certains, maintenant peuvent se déplacer seuls dans les transports en commun, mais c'est vraiment de la confiance en soi.
Ça permet vraiment de renforcer les capacités sociales.
C'est petit à petit parce qu'ils sont conscients, ils sont conscients de leur déficience. Et c'est le regard des autres. Et nous, ce qu'on dit souvent au parrainage civique, la différence, c'est les gens qui la font. Niveau du regard et au niveau de l'impact bénévole qu'ils peuvent faire.
Si jamais on veut continuer ce beau travail, si on a le goût de s'impliquer, de donner de son temps, on peut visiter parrainmarraine.com.
Parrainagechivique.com. On a tout acheté au niveau des noms de domaine.
OK, mais je pense que ça fonctionne encore, parrainmarraine.com.
Oui,
le site fonctionne, je l'avais vérifié tout à l'heure. Merci beaucoup aujourd'hui d'être venu, Cory, pour nous expliquer tout ceci. Félicitations pour votre bon travail.
Merci.
Et on vous souhaite une bonne poursuite. C'est déjà la fin de la première demi-heure de l'émission. On sera de retour dans un instant à M l'été. De retour à M l'été, toujours avec Kevin Breton au micro. On prend une petite pause de ce grand thème de la journée qui est celui de l'entraide et de l'importance de pouvoir miser sur un réseau pour parler d'accessibilité touristique, parce que ça aussi, ça fait partie d'une vie en santé, évidemment, de pouvoir visiter les beaux recoins de notre pays. Et pour ce faire, bien, on rejoint Aube Savard qui est au téléphone, notre chroniqueuse. Bonjour Aube.
Bonjour Kevin.
Aujourd'hui, on se promène un petit peu partout en commençant par Tadoussac. Pour l'observation des baleines, semble-t-il que c'est possible de le faire avec un handicap?
Oui, tout à fait. Et puis, la raison pour laquelle je vous en parle à ce moment-ci, c'est que le moment le plus propice, c'est septembre et octobre. Donc, on y arrive. Alors, c'est une bonne activité à prévoir pour l'automne. Il y a donc à Tadoussac, le quai de Baie-Sainte-Catherine, c'est le seul qui est accessible en fauteuil roulant et on peut embarquer sans aucun problème pour voir les baleines sur le bateau AML Grand Fleuve. Donc, c'est un incontournable, là, peu importe l'âge, le handicap, les intérêts, c'est un truc qui est vraiment, vraiment génial à faire.
On réussit bien à voir, même une fois sur l'embarcation, on réussit à bien voir les baleines. Il n'y a pas comme des rebords qui cachent la vue, par exemple, si on est assis plus bas?
C'est pas si mal.
Super. Puis la côte qui roule, leur sujet parlait de partiellement accessible. Est-ce que c'est parce que c'est pas entièrement accessible, cette croisière? Ou...
En fait, c'est que il y a certains quais qui ne le sont pas.
D'accord,
c'est ça, c'est qu'on peut partir de Tadoussac comme tel, mais si on part de Tadoussac, c'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.
OK, je comprends tout à fait. Puis comme tu le disais en introduction ou un petit peu plus tôt, c'est une activité qui plaît autant aux jeunes que les moins jeunes.
Eh bien oui, exactement. Regarder des baleines, ben, quand on arrive à les voir, là, évidemment.
Est-ce que tu parles par expérience, Aube?
Oui.
Oui?
Disons que moi, j'ai quand même eu plus de chance à les voir sur le bord de l'eau que lors d'une croisière que j'avais faite. Mais c'est juste une question de chance ou de malchance. On le sait, les baleines, ben, on leur donne pas un rendez-vous non plus, là.
Ouais, elles sont pas nécessairement toujours ponctuelles.
C'est ça, exactement. Donc, ça dépend un petit peu. C'est ça.
Donc, si on veut se rendre
au rendez-vous ou pas pour nous, donc ça dépend. Puis, on peut se rassurer, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, mais aller sur un gros bateau pour aller voir les baleines, peut-être qu'on s'approche moins, c'est un peu moins génial et tout. » Mais dans le fond, le Zodiac, c'est interdit pour les femmes enceintes.
C'est quoi le Zodiac?
Comment?
C'est quoi le Zodiac?
Le Zodiac, c'est un espèce de bateau gonflable.
Ah, d'accord.
Oui, okay, donc c'est vraiment c'est un truc qui est un petit peu plus... rock and roll, là, comme croisière, évidemment. Mais c'est ça, c'est déconseillé à ceux qui ont des problèmes de dos, des problèmes articulatoires, qui ont des problèmes d'autonomie. Les enfants de 0 à 2 ans sont pas acceptés. Puis si tu as le mal de mer, c'est pas l'idéal.
Puis est-ce qu'il y a d'autres solutions si on veut se rendre sur l'eau?
Bien, il y a le kayak. On peut toujours faire du kayak. Mais là, encore une fois, ben ça prend un minimum de forme physique pour pouvoir le faire. Auparavant, il y a très longtemps, il y avait de petits bateaux qui allaient aussi pour l'observation des baleines. Moi, je l'avais fait à ce moment-là, mais ça fait 25 ans de ça, là, on s'entend. Puis maintenant, ça a été interdit parce que ça faisait trop peur, en fait, aux baleines.
Donc, la meilleure option reste donc le grand bateau. Est-ce que c'est abordable sur le plan financier maintenant?
Tout dépend de ce qu'on entend pour abordable. Pour un adulte, c'est $69.95.
OK.
Pour les enfants de 2 à 12 ans, c'est à peu près moitié prix, donc $39.95.
Donc, si l'envie nous prend, en septembre et octobre, c'est le meilleur moment pour faire de l'observation de baleines à Tadoussac.
Voilà.
Deuxième activité pour nous proposer pour cette fin d'été, début d'automne, c'est le musée du Fjord que je ne connaissais pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais j'ai visité le site web puis ça a l'air là, franchement intéressant comme musée.
Oui, vraiment, ça a l'air génial. Et puis bon, c'est dans la même région. Donc si on va pour l'observation des baleines, on peut en même temps profiter pour aller voir le musée du Fjord. Donc ça complète un petit peu la visite. Donc une partie plus pratique, une partie plus théorique avec le musée. C'est partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant. C'est la cote que Kéro lui a donnée. C'est dans la ville de Saguenay, dans l'arrondissement de la baie. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a un aquarium, un vivarium, des spectacles multimédia, il y a des expositions temporaires, puis il y a même d'autres activités qui sont offertes pendant l'été, et il y a des services pour les personnes handicapées. Donc, ils ont la VATL, là, la fameuse
vignette.
D'accompagnement touristique et de loisirs.
Oui, qui donne souvent accès, en fait, à un accompagnateur gratuit qui ne paye pas ou vice-versa, là.
Exactement. Et puis, il y a des fauteuils roulants qui sont offerts gratuitement au vestiaire. Donc, si on marche en béquille, une personne âgée qui se fatigue rapidement, qui est avec sa canne ou quoi que ce soit, ça peut être quand même une bonne option pour profiter pleinement du musée. les toilettes sont adaptées, puis il y a aussi des emplacements réservés dans le stationnement pour les personnes qui possèdent la vignette de personnes handicapées. Puis il y a un truc qui est vraiment génial, en fait, c'est que moi, je trouvais ça vraiment cool pour les personnes aveugles ou qui ont un problème de vision, c'est qu'il y a des spécimens vivants dans le vivarium et on peut les toucher.
Ouais, pour ceux que ça leur dérange pas. Des fois, je sais que les personnes aveugles, tu sais, on leur dit de toucher des crabes, là, ça peut être même pour une personne non aveugle, là, ça peut.
Oui, mais bon.
Puis là, moi, j'ai mal une petite note.
Tu peux sentir la forme et tout, ouais. Donc. Je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait quand même être assez génial.
J'ai même une petite note ici qu'on me dit, Aube, j'ai une petite note, Aube, qu'on me dit que tu as déjà tué un scorpion.
Mon Dieu, tu sais ça, toi?
Ben, moi, c'est écrit dans ma fiche de recherche, là.
Ben oui,
mais c'était pas au musée, toujours, là. C'était pas au musée, toujours.
Non, pas du tout. J'étais en voyage aux États-Unis, c'était près de... du National Arches, le parc national Arches, donc vraiment dans un coin assez désertique des États-Unis. Et puis, on était en camping, mais on dormait dans notre minivan. Puis le matin, mon chum, on avait laissé nos vêtements sécher dehors. Et puis le matin, mon chum, il me lance les vêtements pour que je les plie dans la minivan. Moi, je commence à plier ça, puis boum, une belle bébite.
Eh hey, mais là, t'as eu du courage pour tuer ça. Moi, je pense que je serais juste parti à la course, là.
Ouais, mais c'est parce que j'ai pas catché que c'était un scorpion.
Ouais, je pensais que c'est juste que c'était comme une énorme fourmi.
Ben, une grosse bibitte dégueulasse qui avait l'air assez coriace qu'on pouvait pas tuer avec du papier de toilette.
Bon, on est sur l'heure du dîner, fait qu'on n'entrera pas trop dans les détails du comment. De toute façon, il nous reste un troisième point à soulever que je trouvais vraiment bien. Une belle découverte, Travel Eyes.
Oui, hey, ça vraiment, là, pour... C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai trouvé tout à fait génial. C'est une agence de voyage du Royaume-Uni, mais ils ont des numéros de contact aux États-Unis, au Canada et en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Et donc, c'est une agence qui s'adresse aux personnes aveugles et malvoyantes. Et ce qui est vraiment, vraiment super inclusif, en fait, et très enrichissant pour les deux personnes, c'est que ça mixe des personnes voyantes et malvoyantes. Et donc, pour les personnes qui sont voyantes, eux autres, leur boulot, en fait, c'est de décrire à une personne du groupe qui a un problème de vision, ce qu'ils visitent, le paysage, etc. Mmh. Et en échange de cette contribution-là, ils ont un rabais sur le prix du voyage.
Qui est déboursé par l'un des voyageurs avec une déficience visuelle?
Je ne sais pas. De quelle façon est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'ils répartissent le prix de tout ça, mais...
Je sais que c'est un mode d'opération quand même assez fréquent au Québec. J'ai déjà rencontré des voyageurs avec une perte de vision qui se sont trouvés un compagnon qui était rendu habitué à faire de la vidéodescription. Et puis là, ben lui, il lui payait son billet d'avion et ses dépenses, ou en tout cas un certain montant. Puis comme ça, les deux étaient gagnants-gagnants, mais c'est sûr qu'il faut se le permettre. Mais cette agence-là permet de faciliter tout ce travail de coordination-là. On rappelle le nom, Travel Eyes. Si vous voulez avoir plus d'informations, traveleyes-international.com. Évidemment que ça va se retrouver sur notre site vusezvoix.com. C'est une belle découverte que tu as fait là, Aube.
Oui, j'étais bien heureuse de pouvoir vous la partager aussi.
Bien, merci beaucoup. On se revoit, on se reparle très bientôt, j'espère.
Oui, j'espère aussi.
Puis nous, on s'en va en musique et on va revenir tout de suite après avec notre dernière invitée de la journée, Josée Lambert, directrice de l'Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite. Restez là.
Sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs. au-dessus des capitales, des idées fatales, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que l'indri et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazon, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens.
Une reprise de Voyage Voyage par les Lust Fingers. Vous êtes toujours à l'écoute de M l'été, le magazine de Canal M. Kevin Breton au micro. On a presque terminé cette émission, cette excellente émission que j'ai eu le plaisir d'animer. On a vraiment fait des belles rencontres aujourd'hui, notamment avec le directeur des Impatients, Frédéric Palardier, qui est venu nous expliquer comment la musique et différentes formes d'art pouvaient venir en aide aux personnes aux prises avec des troubles de santé mentaux. Un peu dans la même veine là que Cory, qui est coordonnateur au regroupement québécois des parrainages civiques, est venu nous parler de l'importance de donner de son temps comme bénévole pour aider les personnes qui souffrent d'isolement alors qu'ils ont une déficience intellectuelle ou un handicap physique, les aider à sortir, découvrir de nouveaux quartiers. C'était vraiment une belle rencontre. Et là, aujourd'hui, bien, on conclut cette émission avec un autre organisme qui a une vocation semblable. On rejoint José Lambert au téléphone, qui est la directrice de l'Association de loisirs pour personnes à autonomie réduite. Bonjour, Madame Lambert.
Bonjour, Monsieur Breton.
Très heureux de vous parler aujourd'hui. Je vais appeler votre organisme par son acronyme, l'ALPAR, puisque c'est un petit peu plus court à dire. L'ALPAR existe depuis plusieurs années et vous aidez les personnes de 55 ans et plus qui ont un handicap physique, c'est bien ça?
C'est bien ça. En somme, on existe depuis 15 ans et on fait des activités de jour, en fait deux activités par semaine, destinées spécifiquement aux 55 ans et plus qui vivent avec une limitation physique ou un handicap.
Est-ce que c'est une sorte de double contrainte ou comme un double facteur pour accélérer l'isolement, le fait d'être à la fois une personne aînée et une personne avec un handicap physique?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que une personne qui est aînée, par exemple, n'a pas nécessairement accès au monde du travail. Donc, soit s'il a travaillé, des fois, il est déjà à la retraite. Donc, il y a un double isolement possible, à la fois des contraintes d'accéder à des lieux adaptés et aussi l'isolement social relié au fait que ces personnes-là ne sont plus actives socialement.
Souvent, ils perdent leur contact, évidemment.
Exactement.
Et puis, c'est probablement une chaîne qui est difficile à briser parce que ben, quand on s'isole, ça devient de plus en plus facile d'avoir une crainte qui se développe parce qu'on a peur justement d'aller vers l'autre. Comment on fait pour briser ce cercle vicieux?
Ah, écoutez, mais je pense que l'idéal est de favoriser l'existence d'organismes comme les nôtres qui vont, par exemple, faciliter l'accès. Évidemment, nous, on est là pour redonner confiance en ces personnes-là parce que souvent, bon, elles nous sont référées soit par d'autres personnes, soit par le CLSC ou des centres de réadaptation. Donc, ces personnes ont souvent perdu confiance, le tissu social s'est un peu effrité autour d'eux. Mm-hmm. Donc, en revenant ici, les personnes se refont un cercle d'amis, se refont aussi un cercle de soutien. Donc, pour nous, c'est important. Et aussi, ils reprennent confiance en leurs capacités, ils deviennent souvent une personne ressource pour leur père, etc. Donc, pour nous, des lieux comme le nôtre, d'ailleurs, malheureusement, il en existe très peu, permet à ces personnes-là d'avoir, je vous dirais, un filet social autour d'eux.
Oui, on imagine effectivement que d'avoir un réseau comme celui-ci, une fois qu'on l'a intégré puis qu'on peut partager ses conseils avec d'autres personnes, ça doit être très gratifiant sur le plan personnel de pouvoir venir en aide à ses pairs.
Ah, tout à fait. Puis nous, on encourage beaucoup la place de ces personnes-là au sein de l'organisme. Notre conseil d'administration est composé d'ailleurs sur les sept membres, 6 sont des usagers, donc des personnes qui bénéficient de nos services. Mm-hmm. Donc, pour nous, ça c'est important parce que donc ils redeviennent aussi parce qu'on leur permet de prendre cette place-là, des citoyens actifs. Au sein de leur communauté.
Si on parle de l'état des loisirs, parce que souvent briser l'isolement, tu sais, ça passe par le loisir, par la culture, par le sport. Si on parle de l'accès à ces lieux-là pour une personne qui a par exemple un handicap physique, on en est où? Est-ce que c'est difficile de sortir à Montréal et de se trouver des loisirs si on est en fauteuil roulant?
Ah, je crois que oui, mais il y a plein d'organismes dont c'est le mandat et qui dénoncent la situation. Moi, je vous dirais que oui, parce que les lieux, à ma connaissance, des ressources comme la nôtre pour les 55 ans et plus, donc qui vivent justement, là, comme vous l'avez dit, un double facteur d'isolement qui est le vieillissement et l'handicap, bien, il y en a très peu parce que ça prend des installations adaptées. Ça prend aussi des installations adaptées, ne serait-ce que le débarcadère, les toilettes, et ça prend aussi une volonté politique. Et présentement, Altergo fait un bon travail de ce côté-là en termes de représentation, mais ça semble pas une priorité si criante, ne serait-ce que les métros qui sont si peu adaptés, c'est un des exemples.
Oui, puis on imagine que ça touche également, pas nécessairement obligé d'être en fauteuil roulant, mais si on est une personne âgée, descendre les longs paliers d'escalier pour prendre la station Fabre, c'est quasiment dangereux, en fait, là.
Oh, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Donc, je vous dirais, le manque de ressources, pour moi, est un peu alarmant. Et le manque
de volonté, comme vous l'avez dit.
Politique, sur cet aspect-là, comme il y a des élections qui s'en viennent bientôt, et moi, je pense que des organismes comme le nôtre, qui fonctionnent la majorité du temps à pleine capacité, mais il devrait y en avoir plus. Et nous, c'est un de nos souhaits là, d'ouvrir un deuxième bureau d'Alpar, par exemple, plus à l'ouest ou plus à l'est, mais l'accès aux lieux adaptés est tellement rare que ça rend notre tâche difficile.
Parce que là, vous devez choisir des activités, puis c'est un peu plus difficile. Vous les emmenez où, en fait, vos membres et vos usagers avec les 25 bénévoles là, qui vous aident à fonctionner?
Alors, nous, en fait, nous sommes dans un centre communautaire qui s'appelle le Centre La Palme, qui a réussi à avoir un fonds pour son accessibilité universelle, donc on est entièrement adapté. Bon, les ressources comme les nôtres sont très rares. Donc, nos activités ont lieu à l'intérieur du centre, 2 fois par semaine, et à quelques fois par année, on va à l'extérieur, faire des sorties, que ce soit une sortie culturelle ou une sortie au restaurant. Donc, mais la majorité du temps, ça a lieu ici.
De ce que je comprends, donc, ça fonctionne très bien, votre organisme, puisque vous êtes à pleine demande. Et là, de ce qu'on comprend comme constat, en fait, c'est que vous ne fournissez plus à la demande, là. Vous êtes victime de votre succès.
Oui, en fait, Est-ce que c'est... Oui, ça peut être un succès, mais je pense que c'est surtout, en fait, moi, j'inverserai votre question, ce sont surtout les personnes aînées qui sont en perte d'autonomie, qui sont plutôt victimes du manque de ressources. Mm-hmm. Parce que, vous savez, on est présentement à pleine capacité, on a 75 membres, et ça serait difficile pour nous d'en accepter plus parce que nos salles, pour que ça soit sécure, mais nos installations, faire des activités à plus de 40 personnes, ça commence à être un peu, c'est un peu plus difficile. Donc, la qualité des services qu'on offre serait contraint.
Mmh, ben oui, on le devine
serait
tout à fait.
Diminué, ouais.
Bien, merci beaucoup, puis félicitations, Madame Lambert, pour votre excellent travail.
On vous remercie, puis moi, bien qu'on soit à pleine capacité, j'invite quand même les gens à prendre contact avec nous parce qu'on a une petite liste d'attente et puis on fera tout pour les accueillir. Puis ils peuvent venir nous retrouver via notre site qui est très simple, alpar.ca.
Oui, j'allais le mentionner, bien évidemment. Là, c'est pas parce que vous êtes à pleine capacité qu'effectivement, on pourra pas peut-être trouver une petite place pour les prochains inscrits. Donc, on va également mettre le lien vers votre site Internet. Sur notre site Internet, visezvoix.com, si jamais les gens veulent le retrouver. On vous souhaite un excellent automne, Madame Lambert.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est ce qui conclut presque cette émission. Moi, je vais être de retour dans un instant avec des nouvelles en rafale. Ça fait du bien d'entendre tous ces gens qui sont venus au micro de M l'été aujourd'hui pour nous parler de l'importance de donner de son temps. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. J'espère qu'à vous aussi. Puis encore une fois, félicitations à tous les gens impliqués à différents niveaux dans ces différents organismes. Moi, je termine en vous lisant quelques nouvelles du milieu communautaire des personnes avec un handicap. Tout d'abord, il y a l'Étoile de Pachot. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés. On a souvent reçu les membres et les fondatrices de cet organisme qui mentionnent un besoin urgent pour une famille avec un enfant handicapé de 10 ans ou moins pour une séance photo qui va avoir lieu donc demain au parc Wilson de Verdun. C'est un parc qui est nouvellement accessible. Ils ont besoin d'une famille avec un enfant avec un handicap dès 15 heures. Les personnes qui sont intéressées peuvent se rendre au parc avec les frères et sœurs de la famille. Et si vous êtes membre de l'organisme L'Étoile de Pachot et que vous aimeriez participer à cette séance photo, bien sachez que ça va servir à promouvoir les parcs accessibles de la ville de Montréal. Vous avez simplement à envoyer un message en privé. On va mettre le lien vers L'Étoile de Pachot, sinon c'est très facile de les retrouver sur Facebook. Un spectacle bénéfice pour Autisme Québec, hommage à Pearl Jams par Rats. Je ne sais pas si on le prononce à l'anglais ou en français, si c'est Rats ou Rats, mais moi, si j'étais à la tête de ce band d'hommage, je le prononcerais à l'anglaise, donc c'est comme ça que je vais le prononcer, Rats. Ça va avoir lieu à l'Anti de Québec le 31 août prochain. L'autisme étant une cause qui touche beaucoup le groupe, puisque un enfant des membres du groupe en est atteint. Le groupe va remettre à Autisme Québec les profits de leur spectacle qui vont servir à l'agrandissement de la maison de répit de Beauport. Le groupe promet de vous en mettre plein la vue et plein les oreilles avec pas moins de 2h30 de spectacle des meilleurs succès du groupe mythique Pearl Jam. Et en même temps, bien, vous servez une bonne cause en aidant Autisme Québec. L'ouverture des portes est à 20h, le spectacle commence à 21h. Les billets sont au coût de 10$. Vous pouvez les acheter au bureau d'Autisme Québec au 1055 Boulevard des Chutes ou encore vous pouvez contacter par messagerie Facebook le groupe. Donc c'est facebook.com/ratspj. Vous pouvez aussi contacter jeremy@ratspj.com et il vous fera plaisir d'aller les livrer vous-même. « Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain va participer au festival Saint-Lambert en fête du jeudi 24 août au samedi 26 août de 10h à 21h et le dimanche 27 août de 10h à 17h. Le centre-ville de Saint-Lambert va s'animer avec la 42e édition de Saint-Lambert en fête. À cette occasion, vous pourrez visiter des kiosques municipaux sur les services de loisirs, des sports et de la vie communautaire, de l'environnement et de la sécurité citoyenne. De plus, un kiosque sera tout spécialement dédié aux partenaires de la table de concertation du plan d'action à l'égard des personnes handicapées de Saint-Lambert, à laquelle le RAM participe. Ainsi, le jeudi 24 août, Lynn Simard, agente de développement et de communication au RAM, y sera présente de 13h à 17h en compagnie du conseiller municipal, M. Hugues Letourneau. Nous présenterons alors le plan identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et les actions entreprises ou envisagées par la Ville pour les éliminer. Madame Simard profitera aussi de l'occasion pour faire connaître la mission du RAM et sensibiliser les visiteurs à la réalité des personnes aveugles et malvoyantes à l'aide de bandeaux et de lunettes de simulation des différentes pathologies oculaires. Encore une fois, je rappelle l'adresse de Visez-Voix, visez-voix.com. C'est très simple si jamais vous voulez nous réécouter en balado-diffusion. Également, si vous voulez partager sur les médias sociaux, si l'une des entrevues vous a particulièrement plu, c'est sûr que ça nous fait énormément plaisir de voir ça. Je remercie à la recherche Clotilde Seille et Sylvie Rivard pour la magnifique recherche aujourd'hui. Également, je remercie notre maestro Jean-Sébastien Laliberté qui a choisi avec grand soin les pièces qui ont été jouées aujourd'hui à M l'été. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute. Moi, je serai pas là demain, mais je vous retrouve jeudi. Mais vous serez néanmoins entre très bonnes mains demain mercredi, puisque c'est Benoît Racette qui va prendre la relève. Merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien.